Un incident diplomatique entre la France et le Vanuatu. L'État et le gouvernement réagissent à la présence d'une délégation du FLNKS et son président Christian Théin au Vanuatu. Au lendemain de l'intervention de policiers municipaux de Nouméa sur Lansvata, alors qu'un homme armé perturbait la circulation et les activités commerciales, le syndicat Alliance Police demande davantage de moyens. Le personnel du lycée professionnel Escoffier en grève. Au cœur des protestations, les conditions de travail et d'accueil des élèves qui entretiendraient l'absentéisme des jeunes. Le Caraca prendra la mer demain, direction Santo et Port-Vila. Ce sera la première rotation commerciale de la CMI entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Et puis du sport sur le territoire avec du rugby d'Imbéa Mondor. C'est l'affiche de la finale du championnat de rugby à 10 senior. Une finale qui aura lieu jeudi soir à Rivière-Salée. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité ce mardi soir, des mises au point de l'État et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après la présence au Vanuatu d'une délégation du FLNKS conduite par son président Christian Théin. Délégation Jean-François Baudin qui prétend effectuer une mission commerciale.
Et nous vous parlions ce midi de ce déplacement qui suscite beaucoup d'interrogations. Cette délégation d'une vingtaine de personnes conduite par le président du FLNKS Christian Théin est composée de membres du gouvernement. Gouvernement Michael Forest, mais aussi d'élus comme Sylvain Pabouti et Omer Aineslin, ainsi que du maire de Lifour, Pierre Croisé, et ils sont accompagnés de plusieurs chefs d'entreprise. Ils ont été accueillis à Port-Vila par plusieurs personnalités du Vanuatu, et ils viennent participer à un événement intitulé Voice 2030 pour Vanuatu Opportunities for Investment and Caledonian Enterprises, qui se tient à Port-Vila du 4 au 7 mai à l'initiative du ministère du Commerce du Vanuatu. L'objectif est de promouvoir et de renforcer la coopération économique entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Le problème, c'est que le Vanuatu n'a pas invité les bonnes personnes. Dans un communiqué, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rappelle que conformément à la loi organique, le président est la seule autorité compétente pour représenter la Nouvelle-Calédonie à l'extérieur. À cet égard, il constate qu'aucune invitation officielle n'a été adressée ni au président ni aux membres du gouvernement chargé de l'économie et du commerce extérieur. Le gouvernement ajoute que son président, Alcide Ponga, demeure profondément attaché au développement de la coopération régionale, en particulier aux échanges économiques avec les pays voisins. Toutefois, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie estime qu'une préparation conjointe de cet événement dans le respect des usages et des cadres de coopération régionale et économique aurait permis d'en garantir une meilleure cohérence et efficacité. En conséquence, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie précise que la délégation actuellement présente à Port-Vila ne saurait être considérée comme une délégation officielle du gouvernement. Les personnalités qui y participent, y compris celles exerçant par ailleurs des fonctions au sein du gouvernement calédonien, n'y interviennent pas en qualité officielle. Une dernière phrase qui désigne naturellement Michael Forest, membre du gouvernement en charge de la jeunesse, des sports et de la culture.
L'État réagit également à la situation en apportant son soutien au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et indique que l'ambassadeur de France au Vanuatu ne participera à aucun des événements programmés dans le cadre de cette rencontre économique.
Dans un communiqué rendu public par le Haut Commissariat, l'État constate qu'aucune invitation officielle n'a été transmise au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, institution pourtant seule compétente en matière de politique commerciale et de coopération bilatérale avec les États de la région. L'État précise que par l'intermédiaire de son ambassadeur de France au Vanuatu, Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, il a rappelé aux autorités vanuatesses la nécessité de solliciter formellement l'exécutif calédonien pour permettre la constitution d'une délégation officielle. Rien n'ayant été fait en ce sens, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souligne que la délégation calédonienne actuellement présente à Port-Vila ne saurait être considérée comme une délégation officielle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'indique l'État, qui précise que dans ces conditions, l'ambassadeur de France au Vanuatu ne participera à aucun des événements programmés dans ce cadre. Un communiqué qui émane de la représentation permanente de la France auprès de la Communauté du Pacifique, du Haut Commissariat et de l'ambassade de France au Vanuatu.
Et ce déplacement qui a aussi suscité une très vive réaction du député Nicolas Metzdorf. Il a écrit sur sa page Facebook, et je cite, que le Vanuatu se fout ouvertement de nous. Le député de la première circonscription qui indiquait qu'il allait écrire également à l'ambassadeur de France au Vanuatu pour que la lumière soit faite sur cette manipulation grossière.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, à Bouloupari, Saraméa, La Foix, Moindou, Farino, c'est le sang.
Au chapitre des faits divers, à présent du nouveau dans l'enquête sur la mort le 1er mai dernier de Roland Moisson à Bouraqué. Il a, je le rappelle, été tué par arme à feu après une dispute de voisinage. L'auteur des tirs a été présenté au juge d'instruction hier, indique le procureur de la République Yves Dupas. Il a été mis en examen pour assassinat et violence volontaire commise avec l'usage d'une arme. Conformément aux réquisitions du parquet, il a été placé en détention provisoire. À Nouméa, au lendemain de l'intervention peu ordinaire des policiers municipaux à Lonsvata qui ont, je le rappelle, interpellé un homme armé d'un couteau à viande, le syndicat Alliance Police salue le professionnalisme des agents. L'individu qui perturbait la circulation et les activités commerciales autour de l'immeuble Le Commodore a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Si l'intervention s'est déroulée sans accroc et sans blessé, d'après Vaslav Lebovic, référent territorial du syndicat Alliance Police Nationale Police Municipale, cela aurait pu être très dangereux pour les agents.
C'était plus une intervention sans grand risque qui est devenue une intervention très dangereuse, sachant que les collègues sont armés d'armes intermédiaires, ce qu'on appelle les fameux LBD, lanceurs de balles de défense, et le pistolet à impulsion électrique. Mais face à une arme blanche, ces armes ne sont pas suffisantes en fonction du contexte et de la situation, et ça aurait pu aller jusqu'au péril de leur vie. À un moment donné, quand vous êtes primo-intervenant en tant que policier municipal, vous n'avez pas le choix, vous devez désamorcer la situation. On est de plus en plus exposé à des dangers liés à notre intégrité physique, et le cas échéant, à un moment donné, il va arriver un drame, c'est sûr et certain. Soit un collègue qui sera déjà blessé dans un premier temps, léger ou grave, et puis quid de la mort.
Et pour faire face à une recrudescence de la délinquance, le syndicat Alliance Police demande davantage de moyens, mais aussi une adaptation du cadre d'action de la police municipale en Nouvelle-Calédonie.
Ce qu'on demande clairement, c'est l'évolution du statut de la police municipale en Nouvelle-Calédonie, la filière sécurité, et également notre volet social, c'est-à-dire qui est inchangé depuis 1994, concernant l'augmentation des prérogatives, des missions qui nous sont dévolues. Et on voit que la délinquance, elle ne fait que d'augmenter, la criminalité, etc., sauf que ça ne suit pas derrière concernant nos conditions sociales au travail. C'est comme si, ni plus ni moins, demain, vous êtes serveur dans un restaurant, puis maintenant, le patron, il vous demande de faire la planche, la cuisine, d'être au four et au moulin, alors que vous touchez le même salaire, et qui n'est plus en adéquation non plus avec l'inflation et le coût de la vie actuel.
Ces derniers jours, le syndicat Alliance Police a pu exposer ses revendications au député Nicolas Metzdorf, dans l'espoir que les dossiers locaux soient portés au plus haut niveau national.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Agoro est dans le Grand Sud, c'est le sang.
Enercal communique sur la coupure de courant qui a affecté la Grande Terre. C'était dimanche dernier, c'est bien un impact de foudre qui est à l'origine du blackout. Et Enercal explique pourquoi, Jean-François Baudin.
Lorsque la foudre touche une ligne à haute tension, indique Enercal, des protections se déclenchent automatiquement pour isoler le défaut et éviter qu'il se propage à tout le réseau. Mais dimanche dernier, le défaut provoqué par la foudre était d'une intensité inférieure au seuil de déclenchement des protections de ligne. Et donc, sans protection et en moins de 3 secondes, les moyens de production se sont déconnectés, ce qui a provoqué la coupure. Il faut ajouter à cela, explique Enercal, que la présence de machines dites tournantes, comme les moteurs ou les turbines, apporte normalement de la stabilité au réseau pour maintenir l'alimentation électrique. Mais ce jour-là, dans un contexte de basse consommation et de forte production solaire, peu de moyens de production thermique étaient mobilisés. Pour éviter que ce type d'incident ne se reproduise, Enercal va travailler sur le court terme au réglage des protections et va adapter le réglage du mixte en faveur des productions hydrauliques et thermiques au détriment des énergies renouvelables. Et sur le long terme, la mise en place de la STEP devrait permettre d'éviter ce type de coupure, indique Enercal.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier. D'abord, 52% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils ne comprennent pas qu'Enercal n'arrive pas à stabiliser et sécuriser le réseau électrique. Ils sont 48% à dire, à l'inverse, qu'ils le comprennent. Notre question du jour à présent, après l'agression d'un arbitre, c'était samedi lors du match de football Lossy Horizon Sport. Faut-il, selon vous, radier à vie les sportifs coupables d'agression contre les arbitres? Si vous pensez qu'il faut les radier à vie, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Le Haut Commissariat a rendu public le bilan de la délinquance 2025. Il relève qu'en Nouvelle-Calédonie, la délinquance reste principalement urbaine, localisée et non structurée et qu'elle est fortement liée à la consommation d'alcool et de cannabis, Jean-François.
Il s'agit majoritairement d'une délinquance d'opportunité spontanée, ce qui rend son anticipation et son traînement complexe pour les forces de sécurité, indique le Haut Commissariat. Dans les chiffres publiés, on relève une évolution préoccupante des cambriolages avec une hausse de 46,67% par rapport à 2023, même si les cambriolages de locaux d'activité professionnelle ou associative sont en baisse pour l'ensemble du territoire. Les violences intrafamiliales sont encore importantes en 2025 avec 2840 victimes constatées. Au chapitre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le Haut Commissariat indique que les saisies de cocaïne et de drogues de synthèse demeurent à ce jour minoritaires par rapport au cannabis, dont plus de 2,6 tonnes ont été saisies en 2025. Il faut toutefois signaler la saisie douanière de 2,5 tonnes de cocaïne dissimulée dans du fret, une marchandise qui était destinée au marché australien, ce qui confirme l'exposition du territoire aux flux internationaux de stupéfiants. Le Haut Commissariat évoque aussi la lutte contre l'insécurité routière en soulignant que 4 facteurs principaux sont à l'origine des accidents mortels. Les conduites addictives, dont l'alcool dans 76% des cas et le cannabis dans 47,6% des cas. La vitesse excessive dans plus de 59,3% des drames. Et enfin, le non-port de la ceinture de sécurité qui est présente dans 64,3% des situations. Un bilan de la délinquance sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans les prochains jours.
Et notez que ce bilan de la délinquance rendu public cet après-midi par le Haut Commissariat est disponible sur la page Facebook, mais aussi sur le site internet du Haut Commissariat. Dans l'actualité également, l'OPT qui poursuit la mise en place de la fibre optique et annonce aujourd'hui le lancement des raccordements dans la commune de Kouaoua. C'est la 23e des 33 communes du territoire éligibles à la fibre optique et 138 accès sont désormais raccordables sur la commune. L'OPT rappelle que la fibre optique permet pour les entreprises comme pour les particuliers de bénéficier du très haut débit. Et puis de son côté, le centre hospitalier du Nord à Point-d'Imier annonce la réouverture de 14 lits d'hospitalisation de soins de suite polyvalents. Elle se fera avec une montée en charge progressive. Il indique par ailleurs que les consultations médicales et les soins externes infirmiers sont maintenus au jour et horaire habituel. Pour les urgences, en revanche, le CHN de Point-d'Imier invite la population à contacter le SAMU au 15 ou à se rendre directement aux urgences du pôle sanitaire de Conné. À 17h57, on marque une première pause avant de voir le reste de l'actualité.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Mangeons local, c'est la rubrique qui met à l'honneur le savoir-faire des producteurs calédoniens. Agriculture, pêche, tous les beaux produits, décryptés, pour vous, en fonction des saisons. Mangeons local, avec la Chambre d'agriculture et de la pêche, tous les mercredis à 11h et 16h.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France. Info soir, Léo Fichou.
Le personnel du lycée Escoffier de Nouméa en grève aujourd'hui en cause. Un ras-le-bol généralisé. Professeurs et agents protestent contre des conditions de travail mais aussi d'accueil des élèves dégradés depuis Léana Colombo de nombreuses années déjà.
Oui, pas de toilettes, pas de dignité, éducation sacrifiée, élèves méprisés. Voilà les quelques messages que l'on pouvait lire sur des banderoles installées devant le lycée Escoffier. Selon le vice-rectorat, pas moins de 60% du personnel a répondu à l'appel à mobilisation de l'USTKE, l'UTCFE-CGC, la FEDE et FO. À l'origine de cette colère, l'exaspération des professeurs et des élèves qui doivent sortir de l'établissement pour manger, boire ou simplement aller aux toilettes. Une situation que dénoncent ces élèves de première du lycée Escoffier.
La cantine, c'est au La Pérouse. Ben, déjà, on n'est pas prioritaire. On doit attendre, sachant que nous, on finit à midi, on reprend à une heure et on n'a pas le temps. Et soit on loupe un cours, ou soit on mange pas à la cantine. Les toilettes, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de savon et les portes, elles sont cassées. On peut pas fermer à clé. La majorité du temps, on part à l'infirmerie, on trouve une excuse pour aller aux toilettes, confortablement et en sécurité aussi.
Nous, on est obligés d'aller chercher au snack là-bas pour aller chercher des bouteilles d'eau.
Ou aller aux toilettes de la station.
Sauter un cours ou un repas, les élèves du lycée professionnel doivent choisir car ils n'ont que 500 places dédiées à la cantine du Lapérouse alors qu'ils sont près de 1200. Et cette colère est entretenue par des promesses non tenues, nous dit Fabienne Cadoca, secrétaire générale du SFP au sein de l'UTCF-CGC. Un contrat de développement a été signé en 2020, censé débloquer une enveloppe de 600 millions de francs pour la rénovation de l'établissement. Mais le personnel du lycée l'attend toujours.
Il y a eu des comités de pilotage, ils ont eu des super plans avec tout rénover, les toilettes, les vestiaires EPS, la salle des profs, la vie scolaire. Enfin, on leur a vendu du rêve en gros. Et puis pour qu'au final, on leur dise non, malheureusement, on a perdu les sous. Quand c'est un contrat de développement, il y a un délai pour utiliser cette somme d'argent. Sauf que la Calédonie ne l'a pas utilisé dans les temps. Donc automatiquement, l'État a récupéré 550 millions parce qu'il n'y avait que 50 millions qui avaient été utilisés. Et forcément, cet argent-là a été mis ailleurs. Donc aujourd'hui, on nous a promis une enveloppe de 1 milliard juste pour le lycée Escoffier. Mais nous, tant qu'on n'a pas un écrit, tant qu'on n'a pas un calendrier bien précis, on ne peut pas se contenter de promesses. Ils n'en peuvent plus de ces promesses qui ne sont pas tenues.
L'intersyndicale a déposé un cahier de doléances hier lors d'une réunion avec des représentants du gouvernement et du vice-rectorat. Une prochaine rencontre devrait d'ailleurs avoir lieu en début de semaine prochaine en présence du vice-recteur, d'Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge du secteur, et les représentants de l'intersyndicale.
La direction d'Imbéa, à présent, une centaine d'élèves délégués étaient réunis pour une journée de formation placée sous le signe de la cohésion et de la citoyenneté, Léana.
Oui, une formation hors les murs qui s'est déroulée dans une ambiance studieuse mais détendue au Parc Fayard. 5 groupes de 20 élèves de 6e et de 5e ont enchaîné les ateliers jusqu'à 15h. Objectif, mieux comprendre leur rôle de délégué, améliorer leur communication et renforcer l'esprit d'équipe. Une journée de cohésion qui a remporté un grand succès auprès des jeunes participants.
Je trouve que c'est très bien parce que ça nous aide à devenir délégués parce que au collège, c'est la première fois qu'on est délégué, on sait pas tous le rôle que c'est. Du coup, c'est bien cette journée. En plus, faire du sport, c'est bien parce que c'est l'esprit d'équipe et c'est bien pour être délégué.
Je trouve ça c'est très bien pour apprendre à être délégué et genre à plus valoriser à être délégué quoi.
On se rencontre tous, ça fait un peu de connaissances. Puis en même temps, on sort un peu du collège, fait un peu de sortie avec les délégués.
J'adore cette journée puisqu'on fait plein d'activités créatives pour avoir des loisirs. Et comme ça, on peut rencontrer d'autres collèges, avoir des connaissances, se faire peut-être des nouveaux amis.
Super formation pour apprendre à être un bon délégué de classe.
C'est quoi un bon délégué de classe?
C'est quelqu'un qui fait attention à ses camarades, qui veille à pas qu'il y ait de bagarres et de disputes dans les classes et qui représente la classe.
Cette journée de formation des délégués des collèges de Dumbéa a été organisée pour la première fois en 2023. Elle est encadrée par une partie de l'équipe éducative, soit 4 conseillers principaux d'éducation, 5 adjoints d'éducation et une infirmière scolaire. Livia Gervolino est la CPE du collège de Dumbéa-sur-Mer.
En tant que CPE, c'est dans nos missions de former les délégués. Donc c'est vrai que tous les ans, à la rentrée, on prend ce temps-là de formation des délégués. Et donc c'était un moyen, on cherchait un petit peu une idée de faire quelque chose un petit peu original et que les élèves ne soient pas assommés non plus d'informations et qu'ils passent un bon moment dans leur commune quand même. Alors on garde quand même certains thèmes, hein, comme les différentes instances, les droits, les devoirs. Il y a des thèmes qui restent, qui sont récurrents, parce qu'ils doivent quand même avoir la base. Et puis on essaye d'avoir des choses un petit peu ludiques, on les met un petit peu en situation, on essaye de varier un petit peu les plaisirs, parce que c'est vrai qu'il y a des délégués qui sont élus une année sur l'autre, on ne veut pas que ce soit rébarbatif. Et même pour nous, on essaye aussi de modifier un petit peu le contenu pour ne pas s'ennuyer.
La matinée était consacrée aux ateliers formation du citoyen de demain. L'après-midi, c'est un tournoi sportif intercollège qui a été organisé.
Et puis en bref, la réunion annuelle d'information pour les études supérieures en Calédonie, mais aussi en métropole et dans le monde, organisée par la Province Sud, aura lieu demain. Ça se déroulera du côté de l'amphi 400 de l'UNC. Rendez-vous à 17h, une réunion qui intéresse les étudiants, mais aussi leurs familles.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
C'est finalement demain, dans le courant de la journée, que le Caraca, le nouveau bateau de la CMI, la Compagnie Maritime des Îles, appareillera de Nouméa pour effectuer sa première liaison commerciale avec le Vanuatu. Une liaison mensuelle qui a pu être mise en place grâce à l'arrivée du Caraca, c'était il y a quelques mois. Thomas Quiros est le directeur général de la CMI.
Notre première mission, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est de desservir les îles Loyauté et l'île des Pins, ce qu'on fait depuis 30 ans. Avec un seul navire, on ne pouvait pas justement se permettre de décrocher pour faire une fois par mois au moins le Vanuatu. Donc l'arrivée du Caraca ouvert cette opportunité. Et donc maintenant, une fois par mois, on va pouvoir décrocher soit l'un ou l'autre des navires, pendant que l'autre continuera à faire les îles Loyauté. Ça fait plus de 6 mois maintenant. On travaille d'arrache-pied à la CMI pour préparer justement et se mettre au standard pour appliquer toutes les normes. À la fois, il y a des normes administratives également, douanières,
bien sûr,
phytosanitaires. Et pour répondre à l'ensemble des normes, ça a demandé beaucoup de travaux.
Thomas Quiros, le directeur général de la CMI, qui était notre invité du matin il y a quelques jours sur Radio Rythme Bleu. Une interview complète à retrouver sur notre site internet, notre page Facebook, mais également notre chaîne YouTube. Après le maritime, l'actualité aérienne avec ses nouvelles modifications dans les horaires des vols d'ACI, les vols SB500 et SB501 Nouméa, Bangkok, Paris et retour sont reprogrammés. Lionel Sabot.
Oui, le départ pour Paris via Bangkok est programmé pour demain, le 6 mai à 13h30, retour à Nouméa le 8 mai à 18h30. D'autre part, afin de permettre aux passagers des vols Paris-Singapour-Nouméa et Nouméa-Singapour-Paris d'arriver à destination, un vol supplémentaire vers et depuis Sydney a été mis en place. Départ de Nouméa demain, le 6 mai à 8h30. Arrivée à Nouméa le 6 mai à 16h10, c'est-à-dire toujours demain. Air Calin qui indique que ces modifications de vol sont mises en place après l'immobilisation d'un Airbus A330neo de la compagnie. Immobilisation après la détection d'une pièce endommagée dans le bloc moteur. Les échanges avec le motoriste se poursuivent, indique Air Calédonie International. Et le protocole de réparation est lancé, notamment concernant l'approvisionnement en pièces, indique également la compagnie dans un communiqué.
Merci Lionel. Et puis notez ce rendez-vous, l'association Citoyens Mondorien tient son assemblée générale ce soir. Les sympathisants se retrouvent dans quelques minutes, dès 18h15 à la salle des communautés du Vallon d'Or. Une assemblée générale ordinaire avec le bilan moral et financier de l'association qui doit aussi permettre aux membres de tracer les perspectives pour 2026. Florent Perrin, le président de l'association Citoyens Mondorien, sera notre invité demain matin à 7h30. À 18h07, seconde pause dans ce journal. On se retrouve dans quelques instants.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Retour sur notre magazine citoyen de ce midi qui était consacré aux enjeux de l'accessibilité pour les personnes malvoyantes, notamment à travers le braille. Pour en parler, nous recevions Christelle Masséglia, directrice du service d'accompagnement social pour l'autonomisation et l'inclusion des déficients visuels.
L'AVH, entre guillemets, a un gros rôle de communication. Nous, on n'hésite pas à aller voir les différents services, de travailler aussi avec différents partenaires. En ce moment, on a travaillé aussi avec, par exemple, Lagoon, qui développe tout un module d'accessibilité. Donc voilà, on essaie en tout cas de travailler avec les personnes qui peuvent avoir une petite influence là-dessus, que ce soit les politiques ou les partenaires. Et après, on est très en lien, nous, avec notre association mère, qui est la VH France, qui développe pas mal aussi de nouvelles compensations et qu'on essaie de faire venir sur le territoire petit à petit. Au fur et à mesure que notre temps évolue, on est confronté aussi à de nouvelles problématiques avec aussi de nouveaux outils derrière. Nous, il faut toujours qu'on soit aussi à la page sur ces nouveaux risques, ces nouveaux dangers et comment on le compense, comment on réagit face à ça, quoi.
Et sur le plateau également, Jean-Yves Botteau, enseignant référent au vice-rectorat spécialisé pour les élèves malvoyants et aveugles. Marie-Angèle, bénéficiaire de l'association Valentin Ahuy. Et Jérôme Kiosson, technicien formé à la réparation des machines Perkins, machine à écrire le braille.
Une machine Perkins, physiquement, ça va ressembler à une machine à écrire standard. Sauf qu'au lieu d'écrire des lettres, elle va endosser des points sur une feuille pour que les déficients visuels puissent lire, donc avec les doigts, du braille. Donc techniquement, c'est précis, puisque vous avez déjà vu du braille sur des boîtes de médicaments, etc. Et ça doit être aligné, réglé aux petits oignons pour que ça soit le plus efficace possible. La machine a été créée, je crois, dans les années 60-70. C'est de l'horlogerie, c'est très très fin, c'est très petit. Elles évoluent pas, ces machines n'évoluent pas, mais elles ont été très bien conçues, avec des pièces qui se changent, des machines qui se réparent vraiment. Il y a des évolutions numériques, etc. Mais aujourd'hui, ma formation a porté sur la réparation et l'entretien de ces machines, qui sont d'une efficacité incroyable quand elles sont bien entretenues.
Un magazine citoyen qui est à retrouver en podcast sur notre site internet rrb.nc.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Et on termine ce journal avec le sport sur le territoire. Bien évidemment, on parle rugby. La Ligue calédonienne continue sa reconstruction et organise une compétition de rugby à 10 seniors. 4 équipes étaient engagées en ce début de saison. Le CREC, le RC Mondor, l'Olympique et l'URC Dumbéa. Après une première phase de championnat durant laquelle toutes les équipes se sont affrontées, place à la finale. Ce sera jeudi soir, une finale qui opposera Dumbéa au Mont d'Or. Jean-Louis Carigonde est le président de la Ligue calédonienne de rugby.
C'est un entre-deux entre le rugby à 7 et le rugby à 15. On commence déjà en début de saison à faire courir nos gens. On devrait avoir une belle finale avec deux équipes qui ont de l'allure. Le Mont d'Or qui revient bien en forme, hein, là déjà l'an dernier puisqu'il a gagné le championnat. L'URCD qui est toujours au même niveau. Ce sont des matchs très engagés où il y a beaucoup de courses et ils courent beaucoup. Les espaces sont là, mais il y a un peu plus de jeu devant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un mixte, c'est-à-dire jouer devant, mais aussi beaucoup courir, pratiquer un jeu d'évitement. Donc entre le jeu en percussion ou autre, ça permet de rebondir et ça crée beaucoup d'espace.
La finale du championnat senior de rugby à 10 entre Dumbéa et le Mont d'Or, ce sera donc à suivre jeudi soir dès 19h30 au stade Simutoga de Rivière-Salée. 18h12 après le sport, la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec aucune vigilance particulière ce matin. Enfin ce matin, pas du tout, cette nuit, c'est quand même mieux. Les averses s'estompent rapidement en soirée sur la côte ouest. La nuit se déroule ensuite sous un ciel étoilé et quelques bonds de brume en profitent pour se former en fin de nuit. Ailleurs, les nuages sont plus nombreux et s'accompagnent d'averses éparses sur l'ouest. Le vent de secteur d'est faiblit entre 5 et 10 nœuds, voire devient localement variable faible. Ailleurs, il souffle entre 10 et 15 nœuds, voire un peu plus sur l'extrême nord et on termine avec les minimales qui varient entre 19 et 24 degrés.
Merci beaucoup Ismaël, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Place tout de suite à vos rendez-vous d'Europe 1, le journal qui sera suivi de l'interview. Ce soir, Laurence Ferrari reçoit Dominique Schelcher, PDG de la coopérative U.